you're racing or watching.
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tounda et Lucille Como, Boris Pinault et Grégoire Di Fiore, et prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, Grégoire Leménage et Laurent Nunez, Jean-Christophe Brianchon, à notre sommaire. Souvenir de la marée basse de Chantal Thomas au seuil, romans et nouvelles de Philip Roth en Pléiade et le remords d'Emmanuel Bauve chez Ombre. Boris Pinault est également présent à mes côtés, surveillant les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre vos commentaires si vous avez lu les ouvrages dont nous parlons ce soir. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour le film L'usine de rien de Pedro Pino. Il n'est pas trop tard pour parler des livres de la rentrée, surtout des meilleurs, je n'engage que moi en disant cela, puisque nous allons parler ce soir de Souvenirs de la marée basse de Chantal Thomas, publié aux éditions du Seuil, récit autobiographique, on va le voir pour l'auteur des Adieux de la Reine, avec une figure centrale, on va dire deux, elle et sa mère, Jackie, nageuse en mer.
Quand sur la plage tous les plaisirs de l'été que la joie venait à moi de tous côtés. L'amour offrait l'éternité à cette image de la plage ensoleillée. Dommage, mais les amours de l'été bien trop souvent craignent les vents en liberté. Mon cœur cherchant sa vérité
Souvenir de la marée basse, roman, est-il écrit sur la couverture, toujours belle couverture de Fiction et compagnie, dans laquelle, collection dans laquelle paraît ce livre de Chantal Thomas, et c'est Grégoire le Ménager qui va ouvrir le bal.
Tiens donc.
Quoi ? Je t'y ressors, vous savez, non.
Alors, on peut commencer par la couverture.
Ouais.
Je ne comprends pas pourquoi il y a le mot roman sur la couverture.
Ouais. Des fois, on comprend pas pourquoi il n'y est pas. Donc.
Ouais, mais là, on comprend vraiment pas pourquoi il y est, parce que le livre tire toute sa valeur du fait qu'il n'est pas un roman et qu'il n'y a pas.
On dirait
une
moi pinailler sur les.
Non, mais non,
sur
mais c'est très important.
Des
c'est-à-dire qu'on ne le pas du tout de la même manière. Si c'est un roman ou si ce sont des souvenirs romancés, on ne les lit pas de la même manière. Là, le livre est particulièrement touchant parce que Chantal Thomas se met en maillot de bain devant nous, quoi. Vraiment. Enfin, avec ce livre qui effectivement est. Porte sur, pour moi, il y a deux personnages principaux, et pas tellement elle d'ailleurs, c'est sa mère, ouais. Et puis la mère MER, ouais. Quoi. Donc c'est un très très beau portrait de sa mère, très touchant, et à travers le portrait.
C'est la
de sa
mère vue par une fille, quand
bien
même.
Bien sûr, bien sûr. Et il y a toute la question des relations que peuvent entretenir une fille et sa mère. Sa mère étant un personnage assez particulier, dont Chantal Thomas nous dit qu'elle avait une passion dans la vie, c'était nager, et que le reste ne l'intéressait pas. Mais alors pas du tout. Elle semblait assez dépressive, neurasthénique. Je sais pas comment la diagnostiquer. Moi, je suis pas médecin, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est extrêmement, en particulier dans les souvenirs d'enfance, il y a des passages qui sont très très touchants où où Chantal Thomas se souvient que elle venait la voir pour l'entraîner à jouer au pâté de sable et que sa mère lui disait oh non tu sais moi je n'aime pas jouer avec les autres enfants ouais. comme si elle-même était un enfant quoi. Il y a quelque chose de très beau dans cette façon de décrire sa mère. Et puis dans la deuxième partie, Chantal Thomas ayant perdu son père, cette femme vit une sorte de deuxième vie. Mmh. Elle retrouve le goût de la séduction. Elle séduit des
hommes. Elle change de mer.
Elle voilà.
Passe d'Arcachon à Nice.
Absolument. Elle passe de l'Atlantique à la Méditerranée. Et puis elle séduit des hommes. Enfin, sans forcément faire grand-chose avec eux d'ailleurs, mais pour le seul plaisir de séduire, on a l'impression qu'elle retrouve un peu goût à la vie. On sent que Chantal Thomas entretient des rapports assez compliqués avec elle. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, elle nous dit qu'elles ont enfin trouvé le meilleur moyen de communiquer, qui est de s'envoyer des cartes postales. C'est-à-dire juste de se dire qu'on pense à soi, mais sans rien se dire. Et voilà. Et puis en creux, Chantal Thomas s'interroge sur ce que cette filiation lui a apporté, lui a laissé, lui a transmis. Et finalement, la chose que lui a transmis sa mère, c'est peut-être ça, cette phrase que j'adore dans le livre qui dit « Avec mes maillots de bain, je n'ai que de bons rapports ». Ce que je trouve une élégance sublime de la part de Chantal Thomas, qui elle aussi aime beaucoup nager, qui dit qu'elle est bien moins bonne nageuse que sa mère, mais elle parle très bien de la nage et du plaisir qu'on peut éprouver à nager.
Laurent Nunez, sur ce livre de Chantal Thomas.
Oui, c'est un petit livre, alors qui s'appelle roman parce qu'il faut bien le ranger. Il faut bien que les libraires trouvent rapidement un casier, une étagère pour le ranger. C'est un livre qui j'hésitais, je nageais entre deux eaux en le lisant. C'est un livre qui commence par Barthes. Qui sent pleinement le journal du deuil de Barthes sur sa mère. On sent clairement que Chantal Thomas, l'un de ses précédents livres, je crois que le dernier était déjà sur Barthes, et là elle écrit sa chambre claire aussi. Voilà, c'est un livre très beau à la fois sur la mère, M-E-R-E, c'est-à-dire le rapport qu'on peut avoir quand on est une petite fille avec une autre femme qui incarne la féminité, parce que c'est le passage du maillot de bain au bikini presque ce livre-là, et en même temps moi j'étais au début je trouvais le livre un peu lent. Vous savez, il y a une sorte de sourdine, mais en fait j'étais un peu bête, c'est que j'avais oublié que le titre c'était Souvenir en marée basse. C'est-à-dire qu'en effet il y a une sorte de moderato cantabile. Ça avance lentement parce que c'est les souvenirs qui sont là, il faut les savourer.
La baignade dans le Grand Canal de Versailles, c'est pas un début très très moderato cantabile. Ça part fort quand même.
Voilà, il y a cette mère qui elle a fait un fait historique familial. Voilà, elle s'est baignée dans le Grand
Canal
de Versailles.
Elle voit un canal, elle se baigne.
C'est la liberté, c'est la preuve de la liberté. Non, mais parce qu'au début, au début, je trouvais, vous savez, l'idée d'aimer la mer et de la liberté et tout, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement. On a vu ça il y a pas très longtemps dans Plongée, d'Ono Di Bio, qui a fait un énorme souci et qui était sur ce thème-là, la liberté de la femme qui est dans l'élément liquide. Là, d'un coup, il y avait on sent qu'elle utilise une métaphore pour raconter toute une vie. C'est assez beau, c'est un portrait familial qui nous rappelle tous des souvenirs. Voilà, c'est le sable, c'est le plaisir. Et en effet, c'est un portrait de libération d'une femme.
Oui, métaphore, mais pas seulement, j'y reviendrai sans doute. Enfin, voire très accessoirement quand même, me semble-t-il. Jean-Christophe Brianchon.
Pour ce qui est de la question du roman, enfin, du fait de savoir si ce livre est un roman ou non, moi je pense que c'en est pleinement un dans le sens où ça raconte l'idée d'une manière de vivre sa vie dont la mère serait l'image. Effectivement, c'est là qu'effectivement la mère constitue une métaphore et à travers ça, ça n'est pas seulement l'histoire de sa relation avec sa mère, c'est avant tout l'histoire d'une manière dont elle pense que sa mère a vécu et dont elle aimerait que peut-être avoir vécu elle-même et dont elle nous suggère l'exemple en tout cas. Et donc c'est en ce sens-là un roman, une histoire qu'elle nous raconte. Et je pense que dans ce sens-là aussi, il y a quelque chose qui va au-delà de la relation qu'elle a pu avoir avec sa mère. C'est pour moi aussi un roman évidemment sur le temps, sur la manière de le vivre et sur la façon façon dont la mer peut éventuellement représenter ce temps, puisque la mer, à travers ces souvenirs-là, n'est que mémoire, en fait, n'est que mémoire de cette enfance, et cette enfance dans laquelle elle ne cessera jamais de se baigner, finalement, que ce soit sa mère, même sa grand-mère, à un moment, elle en parle, et elle-même, cette mémoire dans laquelle elle se baigne, finalement, et de laquelle elle se lave aussi à travers la mer. Et ça, j'ai trouvé que l'image était très belle, puisque malgré tout, malgré la mélancolie qui se dégage de ce récit, il y a une réelle volonté, une réelle ode au présent, une réelle volonté de vivre au présent, qui fait de ce livre une tentative vraiment très belle, une tentative un peu vaine, puisque finalement, on a le sentiment qu'elle n'y parvient pas à vivre dans ce présent-là, puisque cette mélancolie est tellement présente qu'on se dit qu'il est peut-être impossible de vivre dans ce présent-là, mais elle le dit très bien avec une sensibilité qui est absolument remarquable et une sensibilité qu'on retrouve s'il y a, pour moi, une page à lire. Alors, on va peut-être pas être d'accord puisque vous allez peut-être en lire un autre passage, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'ouverture de ce livre, la page d'ouverture de ce livre, enfin les trois pages d'ouverture de ce livre sont absolument remarquables et très très belles. Donc même
ça ferait un peu long, non, si je les ai
tout ça fera un peu long, mais si les gens passent en librairie et sans l'acheter, ils peuvent en tout cas feuilleter ces trois pages-là. Elles sont très belles.
L'ouverture qui prouve que c'est aussi un opéra finalement ce roman. Mais la question du présent, pour rester sur le sujet véritablement, c'est vraiment ça le legs, hein. Ça revient plusieurs fois, mais c'est quand même ce qu'elle retient, Chantal Thomas, à la fin de sa mère, c'est la façon de vivre l'instant, et seulement l'instant, le présent, et de fait la nage est absolument le moment du présent, hein. Il faut être au présent de ce qu'on fait pour nager, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est présent tout du long, mais qui clôt aussi ce livre, mais qui m'a aussi impressionné dans la mesure où Chantal Thomas a une façon de parler des lieux en parlant du temps, ou du temps en parlant des lieux, parce que c'est quand même des choses extrêmement précises sur Arcachon, la ville d'été, la frontière avec la ville d'hiver, des choses extrêmement précise de même de le départ depuis Lyon, la première ville, ce voyage en train, les différentes maisons des grands-parents, y compris aussi le nouveau lieu d'habitation de sa mère sur la Côte d'Azur. Il y a vraiment un rapport au temps qui passe par les lieux, ou un rapport au lieu qui passe par les temps, et ça j'aime beaucoup ces allers-retours aussi qui sont vraiment d'une finesse. On a l'impression que les lieux sont incarnés chez Chantal Thomas. On pourrait dire que ce sont d'autres personnages aussi du livre, Grégoire Le Ménager. Ces lieux, ces maisons.
Oui, c'est vrai. Vous dites bien. Je vois pas très bien quoi ajouter là-dessus. Il y a une dimension aussi que j'ai bien aimée dans le livre, dont on n'a pas parlé, qui court en filigrane, qui est quand même son roman d'apprentissage à elle, Chantal Thomas. Alors bon, il y a l'apprentissage d'un certain rapport à la vie, d'un certain rapport à la mer, à l'instant, à son corps et tout ça. Il y a aussi on sent qu'il y a une réflexion sur ce que c'est que d'être une femme aussi, et quelle part de liberté elle peut avoir dans une société, sachant que les repères ont un peu bougé au fil du temps. Et puis il y a aussi le rapport à la littérature, quoi, à l'écriture, aux mots. Et il y a des pages très belles où elle parle de, là aussi ce sont des souvenirs d'enfance, hein. Donc bon, c'est je dis pas que c'est un immense livre, mais il y a quelque chose de très charmant, de très sensible et de très intelligent. Il y a des souvenirs d'enfance sur l'apprentissage de la dictée et tout ça. Et moi j'aime beaucoup ce passage où la maîtresse leur explique la distinction entre homonyme et synonyme, et où elle cherche des synonymes, et puis finalement elle écrit comme synonyme: je ne trouve rien. Je ne crois pas que deux mots différents puissent signifier la même chose. Et le livre est parsemé de toutes petites annotations comme ça sur le langage, qui sont très bartésiennes aussi d'une certaine manière, et qui lui donnent une vraie modernité, une vraie profondeur, et qui en font un... Enfin, qu'on se méprenne pas, hein, moi je conteste le mot roman, parce que pour moi, roman, il y a des éléments de fiction, ça veut pas du tout dire que son récit ou que son portrait n'a pas de valeur littéraire, je pense qu'il en a une très grande, et notamment aussi à cause de ces petites observations comme ça sur l'usage qu'on fait des mots, quoi.
Laurent Nunez.
Oui, non, c'est très juste en effet ce qu'elle dit sur la dictée, sur les synonymes. Elle a raison. Les grammairiens, les agrégés refusent de parler de synonymes. On parle de parasynonymes, c'est-à-dire de mots qui vont vers la même direction mais qui jamais se croiseront. Ce qui est intéressant dans les Chantal Thomas, c'est qu'en effet, elle ne elle ne fantasme pas une enfance parfaite, une enfance géniale. Vous savez, il y a pas cette nostalgie. Faut toujours craindre. Moi, je crains toujours les écrivains qui nous racontent leur enfance édulcorée et tout. Je sais, il y a pas ça. Cas, ouais. Et même à la fin, il y a. Enfin, le passé ne sert qu'à fertiliser le présent. Voilà, les dernières pages sont très très belles. Voilà, sur le retour à la maison, etc. Sur les gestes qui reviennent. On ne peut plus nager, mais on a toujours les mêmes gestes de la nage. Voilà, je dis que ça. Voilà, c'est assez beau sur ça, sur la force, hein, l'intérêt. Vous l'avez dit déjà de toujours aller dans le présent et non pas de regarder toujours du côté du passé. Le passé est intéressant, mais juste parce qu'il fait éclore des choses dans le présent.
Jean-Christophe Briançon, à nouveau.
Je suis pas exactement d'accord, parce que le passé fertilise le présent, mais moi je dirais peut-être aussi d'une certaine manière qu'il le métastase quasiment, quoi. Parce que il y a quand même réellement dans ce rapport au temps, vous parliez de ce rapport au temps qui est imbriqué au lieu, mais aussi à l'histoire, parce qu'elle parvient quand même très bien aussi à faire le lien avec l'histoire de France, mais aussi et surtout à l'oubli. Et ça, c'est quand même pas. Je trouve que tous les personnages qui parviennent à vivre dans le présent dans ce livre sont des personnages qui ont dû oublier, qui ont fait la démarche d'oublier. C'est pas des gens qui vivent dans le présent parce qu'ils sont à l'aise avec le présent. Sa mère a quand même, au moment où sa mère meurt, sa mère décide de brûler tous les souvenirs de son mari et de s'en aller effectivement sur une autre côte. Et donc il y a un rapport effectivement assez positif au présent dans le sens où les gens y parviennent, mais ils y parviennent au prix de quels efforts et de quelles douleurs.
Laurent Nunez.
Oui, bien sûr. Non, simplement que le passé fertilise le présent au sens où cette mère nage dans le Grand Canal initialement et Chantal Thomas le sait très bien, elle le dit même, elle écrira sur Versailles ensuite, elle travaillera dessus. Donc voilà, qu'on appelle ça inconscient, fertilisation. Il y a un passage, de flambeau.
Dernier mot, Grégoire Leménager.
Oui, non, pour vous faire plaisir à propos des histoires de lieux.
Faites-moi plaisir, attachés. Allez-y.
Non, mais effectivement. Non, mais c'est-à-dire que moi, le livre, je l'ai lu quand il est sorti, donc ça fait plusieurs mois.
Pareil.
Et c'est vrai que cette histoire de lieu, maintenant que vous en parlez, ça me revient et elle décrit, elle parle très bien aussi, de manière très minutieuse, très précise, de choses qui semblent totalement anecdotiques, mais qui sont les déplacements à l'intérieur de la ville. Et je me souviens à la fin. Il y a des pages très 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 chouettes sur sa mère qui prend le bus alors qu'elle est c'était une vieille dame
pour avoir la bonne plage
fin, pour aller à la bonne plage qui est tout au bout de la baie de Villefranche là, mais parce que c'est là qu'elle aime se baigner, parce que c'est là qu'elle sait qu'elle sera tranquille, et elle décrit bien le trajet dans la ville. Enfin, il y a ça effectivement.
De ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait d'elle une grande auteure et éventuellement un grand livre, c'est que justement, c'est un livre qui est truffé d'anecdotes et, comme vous le disiez, de formules aussi. Mais pour autant, la globalité de son récit dépasse toujours les anecdotes et les formules. Et ça, c'est quand même très très rare, je trouve.
Laurent Nunez, peut-être, pour terminer.
C'est ce que j'appelais au début le moderato cantabile, quoi. C'est ce qui, au début, m'avait un peu déçu. Je dis, où va-t-elle en venir avec une sorte de voix atonale. Et en fait, ça va très loin.
En fait, elle nous a bien eu une fois de plus, Chantal Thomas. Elle est forte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Souvenir de la marée basse, beaucoup de raisons évoquées pour lire ce livre et d'autres encore, parce que ce livre est riche sous son apparent moderato cantabile. À suivre dans la dispute, Philip Roth et Emmanuel Bove.
France Culture,
La dispute,
Arnaud Laporte.
J'en tape dans mon micro, c'est pour vous dire comme je suis excité à l'idée que nous parlions maintenant dans cette dispute littérature du volume de romans et nouvelles de Philip Roth en Pléiade, textes écrits entre 1959 et 1977, autant dire des œuvres du jeune Philip Roth.
Daily races going nowhere.
side. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very
On écouterait longtemps la voix de Jasmine Thompson, mais on va entendre d'abord celle de Laurent Nunez qui va nous parler de ce volume Philip Roth en Pléiade. Volume, alors, on le sait, hein, qui regroupe donc cette période 59-77, mais c'est une sélection hein, dans ces années-là, puisque pas mal de textes, y compris des romans, n'y figurent pas.
Oui, c'est une sélection qui vient à point nommé pour les fêtes, on va dire. C'est une sorte de cadeau.
Ah bon, vous allez dire pour qui? D'accord, bon, allez-y.
Bah non, c'est une très bonne nouvelle que Ross entre en Pléiade actuellement. Avec une sélection, bah, c'est le choix de la Pléiade actuellement de faire des sélections. La sélection est très bien faite, puisque ça commence par Goodbye Columbus, qui est un recueil de nouvelles. Goodbye Columbus, c'est le disque qu'on offre normalement aux étudiants lorsqu'ils finissent leur université. Et donc, voilà, c'est à la fois un recueil qui dit au revoir à la jeunesse de Philip Roth et qui a des personnages qui disent au revoir à leur propre jeunesse. Mmh. Donc c'est un très beau livre, ce volume Pléiade, parce qu'il contient à la fois des textes extrêmement importants, comme évidemment, bah alors, j'hésite à dire la plainte de Portnoy ou Portnoy et son complexe, ça dépend.
Le titre historique, voilà. C'est Portnoy et son complexe. Voilà, c'est vrai exactement. Que la plainte de Portnoy est plus juste par rapport au titre Portnoy's Complaint.
Voilà, exactement. Alors, toutes les traductions ont été révisées. Donc voilà, ça veut dire.
Est-ce que vous dites sous le volcan ou
oui,
on en est encore là quand même.
Oui, non, c'est vrai. Donc il y a la plainte de Portnoy, il y a le récit kafkaïen qui s'appelle le Saint, où un professeur se réveille un beau matin. Hein. Voilà, un homme se réveille, devient une sorte de prothèse mammaire de 70 kilos. Et puis il y a les très bons. Le professeur du désir, c'est celui que j'aime le moins, mais il y a le très beau Ma vie d'homme, très complexe, très compliqué, un peu une sorte de sommet de postmodernité, quoi, où on hésite déjà à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressé en tant qu'œuvre complète, parce que dedans les notices sont formidables. On apprend tellement de choses.
On attend d'une Pléiade.
Voilà, bah voilà. On attend tellement de choses sur la construction, à la fois de n'importe quel écrivain et de cet écrivain qui est Ross. On apprend notamment à tout ce que presque tous ces livres, là même les gros romans, c'est fait à partir de nouvelles initialement. C'est ça ma vie d'homme, initialement, c'était des longues nouvelles qui ont été réunies tranquillement, c'est-à-dire avec du temps. Même la plainte de Portnoy, c'était presque 6 textes initiaux qui partaient à droite et à gauche. Donc voilà, on apprend tellement de choses, et puis surtout voilà, on redécouvre des textes qui choquent, où on rit énormément, qui sont d'une crudité gigantesque, qui sont voilà très très sexuels, très très brutaux. Le plus drôle, évidemment, c'est la plainte de Portnoy pour moi. Voilà.
On s'y arrêtera dans un instant,
ouais,
peut-être pour faire un point dessus. Comme vous me le faites remarquer, si je puis dire, je n'ai pas dit que la préface de cette édition de Pléiade de Philippe Jaworski et que l'édition est établie par Brigitte Félix, Aurélie Guilin, Paul Lévy et Ada Savin. Et pour être tout à fait complet, je veux dire que les traductions sont de Georges Magnan, Henri Robillot, Céline Zins et qu'elles sont révisées pour cette présente édition. Jean-Christophe Brianchon.
Moi, personnellement, je suis très content d'avoir eu l'occasion de pouvoir me plonger dans cette édition juste après avoir lu Jonathan Safran Foer, parce que ça m'a permis peut-être d'entrevoir encore mieux comment et pourquoi Philip Roth, aujourd'hui encore pour les très jeunes auteurs, enfin très jeunes, Jonathan Safran Foer n'est pas si jeune que ça, mais quand même, pourquoi il était si important et jusqu'où il avait infusé cette littérature-là.
Je voulais vous demander si c'était pour savoir qui était le vrai écrivain des deux, mais bon, ça je garde ma perfidie pour moi.
Je ne répondrai pas à cette pique. Puisque c'est un auteur formidable, les deux sont des auteurs formidables, et donc j'étais content de pouvoir me rendre compte exactement, entre autres par la préface de Philippe Jaworski que j'ai trouvé absolument formidable, de me rendre compte voilà, jusqu'où ça allait, jusqu'où cette la résonance de cet auteur allait, entre autres dans son rapport à la parole, puisque c'est évidemment quelque chose de très important pour lui, puisqu'il a eu cette phrase très connue qui est reproduite dans l'introduction, je crois, de Paul Lévy, qui est qu'un auteur juif, c'est un auteur qui ne la ferme jamais. Et donc Philippe Jaworski parvient à travers une préface qui est, je trouve, très intelligente et tout aussi tortueuse et labyrinthique que ne peut l'être l'écriture de Philippe Ross, à nous expliquer exactement pourquoi et comment cet auteur juif-là a ce rapport, on va dire, logoréique. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que ça existe. Pourquoi,
on va le vérifier, je crois.
Oui, c'est bon. Oui.
C'est
bon. Je valide.
C'est validé par Maître Lunez.
Et voilà, il nous explique particulièrement bien, je trouve, voilà, le rapport névrotique que peut avoir Philippe Ross à la parole. Ensuite, pour ce qui est de la sélection des textes, moi j'ai trouvé assez dommage, malheureusement, que certains textes comme Tricard Dixon et ses copains et le grand roman américain ne soient pas proposés dans cette édition, parce que je trouve qu'il constitue un élément important de la compréhension de la bifurcation de Philippe Ross vers une littérature qui sera plus politique et plus, on va dire, plus engagée, ou en tout cas pas politiquement au premier degré, mais en tout cas dans tout le rapport qu'il a au rêve américain et la critique qu'il peut en faire. Je trouve que ces deux textes-là, qui sont des textes qui rentrent dans la période de ce volume
temporel,
de ce volume, ces textes-là ne sont pas présents, et je trouve ça très dommage. Après, bon, il fallait faire un choix, et le choix a été fait sans moi, manifestement.
Il me semble en effet qu'on ne vous a pas demandé votre avis. Grégoire Le Ménager, sur ce volume non validé par Jean-Christophe Briançon dans son choix.
Qu'est-ce qu'il est dur. Non, mais je
êtes-vous retiens vous-même?
Ah oui. C'est difficile de ne pas l'être du tout quand même.
Non, j'ai, doit s'en trouver.
Je suis loin d'avoir lu toute son œuvre, mais j'en ai lu quelques-uns quand même. Et ce qui est fascinant là, même s'il y a des textes qui ont été laissés de côté, c'est qu'on voit les débuts de Philippe Roth et on se rend compte à quel point il cherche, quoi. À quel point il essaye d'inventer des nouvelles. Il expérimente différentes esthétiques, différentes formes. Quand même, entre les nouvelles de Goodbye Columbus et Le Saint, ça n'a absolument rien à voir. Le Saint, moi d'ailleurs, je trouve que c'est. Il y a des gens qui trouvent que c'est un petit chef-d'œuvre. Moi, je l'ai relu, là. Je ne gardais pas un très bon souvenir. Je l'ai relu et je suis resté sur la même impression que c'est quand même un exercice de style un peu cérébral et un peu abstrait, ce qui est un peu dommage compte tenu de la métamorphose qui nous est racontée, mais peu importe. Et puis Ma Vie d'homme, moi j'avais jamais lu Ma Vie d'homme et j'ai été fasciné par le dispositif qui annonce celui de la contre-vie, qui je pense est peut-être son plus grand livre. Enfin, c'est vraiment des livres qui font complètement perdre pied parce qu'on ne sait plus très bien qui parle. Il y a ces systèmes de doubles que je vais être incapable de décrire tellement ils sont raffinés. On lit un roman à la première personne, je crois, et puis après on se rend compte que le roman à la première personne qu'on était en train de lire, en fait, c'est une fiction inspirée par la biographie d'un autre écrivain qui n'est toujours pas Philippe Roth. Et il y a un système de poupées russes comme ça et qui fait qu'il y a des jeux de miroirs qui s'établissent, mais des jeux de miroirs qui sont biaisés, et les rapports entre la fiction et la réalité, il y a des frottements en permanence, mais il n'y a pas d'équations qui permettent de les. Enfin, on ne peut pas les faire rentrer dans un algorithme. C'est ça qui est génial, quoi.
Il n'y a pas d'atelier d'écriture pour ça.
Voilà. Et puis il y a une noirceur et un humour extraordinaire. Alors j'ai reparcouru Portnoy et son complexe, parce que je continuerai à appeler Portnoy et son complexe personnellement. Il m'est revenu en mémoire que dans une vie antérieure, j'ai donné des cours à l'université sur ce livre, et en le relisant, je me disais mais comment j'ai pu faire bosser des jeunes gens qui pour la plupart étaient des jeunes filles d'ailleurs de 20 ans sur les passages du Raskolnikov de la branlette et tout ça. Et il y a des passages qui sont effectivement très très crus, très très violents et hilarants. Enfin, qui restent hilarants 50 ans après là.
Alors peut-être que c'est le moment, c'est le point Portnoy et son complexe ou la complainte de Portnoy, effectivement. Le lire en 2017, ou alors carrément faire court dessus en 2017, ça doit être une autre histoire.
C'était dans une vie antérieure,
donc c'était avant 2017. Je sais bien, j'imagine ce que ça peut être aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est
compliqué. De donner un cours sur ce livre-là. Vous vouliez en parler, Laurent Nunez, recommençons avec vous.
Ouais, c'est un livre qui a cristallisé la gloire de Ross et les incompréhensions, parce que c'est un livre, c'est un homme, voilà, qui parle à son psy et qui lui dira tout, parce que c'est le propre d'être sur le divan, de tout dire.
Normalement.
Du coup, on n'a pas le droit, nous, d'entendre ça, et on entendra tout, et cet homme, bien, il est. Alors, le complexe de Portnoy, c'est quand on est partagé entre une grande avidité sexuelle et une grande crainte d'accomplir ces actes sexuels parce que la morale serait là la plus forte, etc. Et c'est ce que Portnoy ressent au fond de lui, c'est pour ça qu'il a besoin d'un psy pour s'allonger et parler. C'est un livre formidable, vous savez que c'est un livre qui initialement, alors on apprend qu'il s'en est vendu presque 300 000 en deux jours, les deux premiers jours, voilà, pour aboutir au bout de deux mois à presque 500 000 exemplaires, voilà, c'est colossal. Il s'était préparé, il est pré-publié dans certaines revues, certains textes et tout. Tout le monde savait qu'une bombe allait exploser. C'était ce livre-là. C'est un livre qui était très mal compris. Vous savez que la communauté juive a même considéré que c'était presque un livre antisémite initialement. ce qui nous fait rire parce que c'est terrible de penser ça, parce qu'il pensait que ça donnait une très mauvaise image du juif obsédé sexuel. Et là, on sent encore rare qu'il y a une sorte d'amusement chez Ross de voir jusqu'où il pourrait aller. On a vraiment l'impression que c'est ça, que ce soit narrativement dans ma vie d'homme, jusqu'où je peux aller dans le jeu des miroirs, jusqu'à complexe de Portnoy, jusqu'où je peux aller dans l'obsession sexuelle, ou même dans les premières nouvelles. Il y a une nouvelle formidable dans Goodbye Columbus qui s'appelle La conversion des Juifs, qui est très très drôle, où un gamin discute avec sa mère et un rabbin et il lui explique très bien, très fortement que Jésus-Christ ce n'est pas le fils de Dieu, et le gamin tout d'un coup décide de monter dans un immeuble et menace de se suicider tant que les parents et le rabbin n'avouent pas que Jésus-Christ est le fils de Dieu, et là ils sont obligés d'avouer, sinon le gamin meurt. Et cette conversion des Juifs, elle est très drôle parce que chez Roth, elle est l'imprononçable, la conversion d'un homme, et en même temps, ces gens-là qui sont prêts à préférer leur fils à un dieu, c'est dans la tête de Ross, évidemment, la mère juive, prête à tout pour que son fils vive. Donc voilà, il y a tout un système comme ça de tourbillon de pensée chez lui. C'est assez jubilatoire. J'aime pas ce mot, je le déteste même,
Mais vous l'employez ce soir. Bon, c'est à noter à 19h36. Jean-Christophe Brianchon, sur la complainte de Portnoy et de son complexe. Le nouveau titre, en fait.
Moi, ce qui m'a... je ne l'ai pas relu pour l'occasion, la complainte de Portnoy, mais bon, je l'avais lu précédemment, et ce qui m'a intéressé, c'était plutôt de voir les nouvelles de Goodbye Columbus qui y amènent assez directement, très directement même, comme vous le disiez. Et en particulier, moi, s'il faut en citer une, c'est Epstein, que j'ai trouvé absolument formidable, que je ne connaissais pas du tout. Et même dans la préface, elle était... Pas dans la préface, dans l'introduction, elle est juste... il y est fait allusion. Du coup, j'y ai jeté un œil, et j'ai trouvé ça vraiment formidable, parce que très très drôle, excessivement drôle.
Il s'agit de quoi?
Il s'agit d'une histoire de... Alors, c'est un couple un petit peu finissant, avec un mari acariâtre et en même temps très sentimental, qui ne comprend pas comment son couple a pu devenir ce qu'il est devenu, et qui ne comprend pas que sa femme ait pu, comme il le dit, devenir une machine à faire le ménage, il dit. Donc c'est terrible. Et à la fois, donc pour s'extraire de ça, il va de manière totalement grotesque finir par avoir une aventure avec la voisine dont son neveu lui-même, que son neveu lui-même connaîtra bien, puisque lui-même aura une aventure avec sa fille. Donc bon, tout s'imbrique, et de manière tout à fait grotesque et tout y est. Déjà, l'humour est là, le rapport à la consommation et au sexe est là, puisque à un moment, il y a une phrase qui me fait beaucoup rire, où sa femme s'endort à côté de lui en faisant des bruits de rêve, quoi. Et il se réveille en disant du beurre. Je suis sûr qu'elle rêve de beurre, cette idiote. Elle rêve de recettes de cuisine pendant que les gens se déboutonnent, parce que au rez-de-chaussée, il y a donc son neveu qui est en train d'avoir une histoire avec la fille de la voisine. Et donc tout est présent, l'humour, le rapport au sexe, à la consommation, à cette Amérique qui parfois vacille. Et pour terminer dans une situation elle-même très drôlatique de ce mari qui a un accident, et qui va aller vers l'hôpital et qui se retrouvera nu devant les médecins pendant que sa femme demandera au médecin: mais qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il a une tache sur le sexe, alors que cette tache-là est une tache qui résulte des rapports qu'il a pu avoir avec la voisine. Enfin bon, tout est totalement absurde, très drôle et très cruel, et en même temps très beau.
À propos d'humour, Boris Pino, j'ai oublié tout à l'heure de vous faire donner un commentaire sur Chantal Thomas, peut-être en fin d'émission sera un post-scriptum, mais là sur Philip Roth.
Oui, une question de Clément M sur Twitter. On entend souvent dire Roth, il faut le lire en anglais. Est-ce vrai ou juste du snobisme, car son humour, écrit-il, ne m'atteint pas?
Alors, qui a lu Roth en anglais autour de cette table? Pas moi.
Bah non, mais c'est incroyable de dire ça. Et comment on fait pour le...
Bah non, mais il pourrait y avoir des anglophones...
Pas suffisamment, et par ailleurs, non, il me semble qu'il est plutôt bien traduit en français. Enfin,
il est très bien traduit.
Problème, ouais.
L'humour ne réside pas absolument dans
il y a des comiques de situation, il n'y a pas que des comiques de mots.
Oui, Jean-Christophe à l'instant.
Je pense que non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est traduit dans notre langue. C'est-à-dire, notre langue, à nous, tout d'un coup, on découvre des choses ahurissantes dans notre propre langue. Si on lisait en anglais, ça recréerait une distance qui ferait que ça nous toucherait bien. Moins, ce qui nous touche, là, c'est qu'en plus, c'est en Pléiade. Vous imaginez, c'est en cuir plein pot doré à leur fin. J'ose même pas lire les titres courants de porno et son complexe sur d'une vulgaire. Assez
vous
n'osez
pas, mais vous en avez envie.
Oui, non, mais vous voyez, je ne l'ai pas fait. J'ai détourné les yeux.
D'accord, de détourner les yeux, faites comme ça. Non, et puis en plus, dernier point peut-être sur ce volume en Pléiade. Chaque année, on y dit, bon, est-ce que Philip Roth va enfin avoir le prix Nobel? C'est la stature, l'immense écrivain, effectivement celui qui a tellement impressionné et suscité de vocation. Et ce que vous disiez déjà tout à l'heure, les uns et les autres, c'est que là, on en revient à la fabrique quasiment de Philip Roth. On voit la naissance d'un écrivain sous nos yeux. Et ça, encore une fois, il n'y a que la Pléiade, en tout cas dans ce pays, qui est capable de proposer des aventures éditoriales comme celle-ci. Mais c'est très vrai de voir qu'il expérimente tous azimuts. On a l'impression d'un grand écrivain qui a son style et qui a ses histoires un peu folles, mais bon, que, tout à fait qu'on s'est repéré là. Bien malin dans les premières nouvelles et premiers livres, celui qui aurait pu dire, bah, Philip Roth, il va donner tel genre d'écrivain. C'est quand même aussi ça qui est fabuleux dans ce recueil.
C'est à la fin, si tant est que sa carrière soit terminée. Enfin, il dit qu'elle est terminée.
Il le dit tous les deux ans ou trois ans.
C'est à la fin qu'on se rend compte, effectivement, de tout ça et qu'on se rend compte que toutes les graines de son génie étaient déjà présentes dans chacun de ses premiers écrits. Et moi, par ailleurs, j'y pense, là, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de découvrir, alors c'est de notoriété, c'est tout à fait connu, mais ça m'a intéressé de voir, exactement comme Emmanuel Bove, dont on va parler après, de voir que ses premiers textes étaient publiés dans des revues, dans des journaux. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'existe plus, en France en tout cas, quasiment plus.
De façon extrêmement confidentielle.
Ou de façon très confidentielle.
Parce qu'à l'époque, pour certains, c'était des journaux à très gros tirage.
Exactement.
C'est une autre époque.
Et c'est quand même... c'est vraiment plaisant de se dire qu'à une époque, le génie avait droit de citer, même dans la presse quotidienne.
C'est peut-être par hasard, allez savoir. Laurent Nunez, un dernier mot peut-être?
Non, on est jaloux, à un moment, parce qu'on se dit, mais pourquoi en France il n'y a pas une sorte de liberté comme ça une liberté qui ne tombe pas dans le vulgaire, qui tombe dans le génie quand même.
On n'a jamais eu ça, nous?
Moi je cherche.
Non, mais là vous.
Depuis Rabelais, vraiment?
Quand même.
Non, vous êtes décliniste là.
Ouais, on n'est pas les derniers quand même. C'est sur ce...
J'attends que vous nommiez des gens.
Non, mais des écrivains de l'envergure de Philip Roth, je pense qu'il n'y en a pas non plus.
Il n'y en a pas tous les 4 matins.
Il n'y en a pas non plus tous les 10 ans.
Oh, vous appelez décliniste là.
Par ailleurs, il y en a quand même un qui, en lisant ses premières nouvelles, avait eu une jolie phrase. C'est Saul Bellow qui avait dit « Goodbye Columbus est un premier livre ». mais ce n'est pas un livre de débutant.
Et... Bon, ben voilà, c'est joli. C'est dit Laurent Nunez.
Non, disons pour s'il faut conclure que le grand écrivain de Philip Roth, c'était non pas Kafka, ou même s'il y a eu le Saint, c'était quand même Flaubert. Voilà, donc voilà, il titille notre goût français. Roth, c'est pour ça qu'il a un si grand succès chez nous, ailleurs aussi, mais chez nous français aussi, parce que c'est un Flaubert qui revient.
Allez savoir s'il n'y a pas que dans les éditions françaises qu'on nous dit qu'il était amoureux de Flaubert, juste pour nous faire plaisir.
Non, mais c'est vrai que l'histoire de ses débuts et de tous ses premiers livres, c'est une bagarre avec Flaubert, quoi. C'est que, à la fois, il veut être comme Flaubert, et en même temps, il sent bien que chez Flaubert, il y a quelque chose qui est un peu trop figé pour lui, qui est un peu trop glacé, qui est un peu trop, et il veut y injecter de la chair, des sentiments, et puis des angoisses, parce que c'est
de la chair, des sentiments, des angoisses, il y en a chez Flaubert. Donc, oui, mais disons qu'il y a moins de Normandie chez Philip Roth.
D'une autre manière.
Voilà.
Et de l'exubérance aussi, là, qu'il y avait moins chez Flaubert. L'exubérance verbale, quoi.
Oui, parce que c'était très exubérant, Flaubert, en son temps. Philip Roth, Romans et Nouvelles, 1959-1977, préface par Philippe Jaworski, édition établie par Brigitte Félix, Aurélie Guilin, Paul Lévy et Ada Savine.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute littérature nous vient avec la petite bibliothèque Ombre qui propose sous le titre Le Remords, un volume réunissant 9 contes et nouvelles d'Emmanuel Bouve, paru dans des journaux, en effet, Jean-Christophe Brianchon, en l'occurrence jamais réédité depuis. Et puis on trouve aussi la totalité ou quasi-totalité visiblement de ces très rares interviews. Il s'agit pour ce recueil consacré à des textes d'Emmanuel Bouve d'une édition établie par Blaise Goyer qu'il présente ainsi très simplement, et je vais reprendre cette présentation. L'œuvre d'Emmanuel Bouve 1898-1945 se compose de 23 romans, de plus de 40 nouvelles, d'articles dans divers journaux et revues auxquels s'ajoutent une dizaine de romans populaires publiés sous le pseudonyme d'Emmanuel Valois, ainsi que deux traductions, Dickens et Tolstoï, réalisées en collaboration. Si on s'intéresse à cet écrivain, on saura qu'il a eu un très grand succès dans les années 20 et 30 et qu'il est ensuite tombé dans l'oubli, on peut dire ça comme ça, même si plusieurs éditeurs, notamment le Castor Astral, mènent depuis des années poétiques et éditoriales vraiment méritoires, quand on aime comme moi Emmanuel Bouve, pour essayer de remettre à jour un certain nombre de ces textes, grands textes. Là ici, il s'agit vraiment de très courts récits pour la plupart. Jean-Christophe Brianchon, pour commencer.
Alors en effet, il était tombé dans l'oubli, je pense,
régulièrement.
Que la génération dont je fais partie est totalement passée à côté. Donc moi,
jusqu'à aujourd'hui, alléluia.
Jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, ça m'a donné l'occasion de le découvrir. Et alors pour ce qui est de cette édition, l'éditeur n'y est pour rien. Mais comme vous le dites, il a donné très peu d'interviews et la totalité sont représentées dans ce volume. Malheureusement, ça donne du coup des papiers qui, à mon sens, ne sont pas d'un très grand intérêt. Alors pour les fans, donc oui, peut-être vous faites partie, ce sera utile.
J'imagine interviewer Emmanuel Bouve, quel cauchemar.
Mais là, honnêtement, en tant que lecteur, ces papiers-là ne sont pas très intéressants. Ouais. C'est pour fétichistes. C'est des papiers qui ont été écrits au moment de la réception du prix Falguière, je crois.
Figuière.
Ouais. Un prix que je ne connais pas.
Le prix jeune auteur de l'époque.
Et 50 000 francs.
Oui.
Énorme.
Voilà, et donc ça, on ne cesse de nous le répéter. C'est un prix qui manifestement rend riche. Alors après, en revanche, c'est des papiers qui nous permettent de découvrir à certains instants la personnalité de cet auteur, qui était manifestement très secret, très fuyant. On voit qu'au moment de la réception de ce prix, personne ne savait où le trouver parce qu'il habitait partout et nulle part à la fois, chez des amis,
à l'hôtel, beaucoup.
À l'hôtel, n'importe où. Bon, donc c'était très compliqué de le trouver. Et donc voilà, ça nous permet d'entrevoir cette personnalité-là par, entre autres, un papier qui est peut-être le meilleur de tout ce qui est écrit par Pierre Lazareff, ce qui n'est peut-être pas un hasard. En revanche, ensuite, pour ce qui est des nouvelles en tant que telles, moi j'y ai pris un grand plaisir, et pourtant je suis assez peu lecteur de nouvelles, parce que je goûte pas particulièrement le rapport téléologique que peuvent avoir les auteurs avec la fiction quand ils écrivent de la nouvelle. Ça tient souvent de l'effet qui nous permettra d'être étonné à la fin, la petite pirouette qui en deux pages nous permettra. Bon, là en l'occurrence on tombe pas du tout là-dedans, c'est on tombe à ce point-là pas là-dedans que ça ne sert parfois qu'à écrire l'histoire qu'elle raconte, quoi, point barre. Donc c'est très très humble, très sobre, assez neutre. Et d'ailleurs il le dit dans le papier qu'écrit Pierre Lazareff, pour parler de ses personnages, il raconte le processus pour trouver le nom d'un de ses personnages, et il dit mon seul objectif c'était de trouver un nom terne. Parfois ces nouvelles nous font ressentir ça, effectivement, il y a quelque chose de terne dans les histoires qu'il raconte, bien qu'il y ait quand même une pointe d'humour aussi de temps en temps, mais ça lui évite l'écueil de la finalité, de la recherche de la finalité, et je trouve ça du coup assez beau et assez agréable à lire. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la scission entre les quatre premières ou les cinq premières nouvelles qui ont été écrites à Paris sur des histoires... on va dire des histoires de mœurs parisiennes, et les quatre ou cinq nouvelles qui suivent, qui ont été écrites à Alger pour un journal algérois. Et c'est très intéressant
pendant la guerre notamment.
C'était très intéressant de voir la différence entre les deux et de voir à quel point ces histoires écrites en France qui étaient supposément anodines vont devenir, une fois transposées à Alger, plus du tout les mêmes, et il y aura réellement un rapport au patriotisme, à la politique, à la guerre, à l'héroïsme, qui sera très intéressant, très très intéressant, bien qu'on le partage ou non, quoi. En tout cas, ça ancre l'auteur dans quelque chose qui est très intéressant, et de pouvoir voir la différence, le décalage entre ces deux périodes est très intéressant.
Alors, écoutez, Jean-Christophe Brianchon, je me demande si c'est une bonne idée pour les gens qui n'ont jamais lu Emmanuel Beauve de commencer avec ce volume.
C'est ce que je me suis demandé.
Je pense que non, à vous écouter. Mais malgré tout, vous avez quand même su trouver un intérêt à cette lecture. Alors, êtes-vous Beauvien, Grégoire Leménager ?
Alors, j'aime bien Emmanuel Beauve. Je ne fais pas non plus partie du fan club qui considère que c'est un des grands écrivains maudits, oubliés du XXe siècle. Moi, j'avais été victime d'une rumeur il y a une vingtaine d'années qui disait ça. Donc, avec des arguments.
Je l'avais peut-être propagé.
Mais vous êtes très probablement.
Je peux me dénoncer.
Non, mais voilà, il y avait effectivement ça, ce côté auteur pour Happy Few, et puis avec des arguments qui me touchaient beaucoup, qui me plaisaient beaucoup, qui m'attiraient beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les écrivains de cette génération-là, les écrivains de l'entre-deux-guerres, tout ça. Donc, je m'étais précipité dessus. Et j'en avais lu deux ou trois, notamment Mes Amis, qui est un très beau roman, l'espèce de neutralité, de minimalisme, d'économie de moyens, faisait que que je trouvais que les romans étaient bien, mais voilà, j'étais pas non plus transporté. Enfin, peut-être qu'on me l'avait un peu survendu.
C'est le problème.
Toujours est-il que, sans faire partie du fan club, j'aime bien Emmanuel Beauve. Et là, j'ai lu ses petites nouvelles avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Et je me demande si c'est pas une bonne idée de commencer par les nouvelles. Parce que ce sont des textes très, très courts. Il y a effectivement un vrai humour quand même. Enfin, moi, ça m'a rappelé certains textes de Marcel Aimé. Si on retire ce qu'il peut y avoir de fantastique chez Marcel Aimé, ou ce qu'il peut y avoir de franchement comique chez Marcel Aimé, mais qui n'y a pas toujours chez Marcel Aimé. Il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'il nous prend des monsieur tout le monde, et ça part de situations extrêmement ordinaires, et il se passe des choses dingues, quoi, tout le temps.
C'est terrible.
Et terrible. Et il y a quelque chose de très noir, de très grinçant, de très pervers. Je suis pas tout à fait d'accord avec votre histoire de se contenter de raconter l'histoire, parce que moi j'étais très sensible à l'art de la chute. Je trouve qu'à chaque fois il y a un petit twist, comme on dirait. si on n'était pas en France.
Mais un twist qui n'est pas factuel, un twist qui sera plus stylistique et langagier, plus que factuel.
C'est ça que j'apprécie. Il y a une petite variation du point de vue, il y a un effet de zoom sur quelque chose, mais c'est toujours fait de manière très très fluide, c'est pas des grands effets de manche, je suis d'accord hein, mais il y a quand même toujours
non, c'est pas la nouvelle à chute au sens,
mais il y a toujours un petit quelque chose dans le dernier paragraphe qui fait que on a plutôt envie de relire les trois pages qui précèdent pour savoir ce qu'on pour les relire sous un autre point de vue.
Oui, voilà. C'est vrai.
Et puis stylistiquement, non, c'est bien parce que il a l'air d'écrire sujet verbe complément et de rien faire, mais en fait, il fait tout le temps des choses. Quoi.
Le
type qui voit quelqu'un se noyer, il ôta son veston, eut la présence d'esprit de le poser juste au bord du quai de manière à pouvoir le surveiller après qu'il aurait plongé, ôta ses souliers sans les délacer comme des pantoufles, élargis qu'ils étaient par l'usage. Au passage, il nous donne plein de petits détails comme ça qui incarnent les choses. Et puis, dans le paragraphe d'après, il y a l'habituel spectateur qui est médecin se mit en devoir de ranimer la nuit. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a toujours quelque chose d'un peu distancié qui est très, très savoureux.
Oui, oui, où chaque mot est à la place juste. Laurent Nunez.
Oui, quand j'ai eu le volume entre les mains, j'étais très heureux, non pas parce que c'était Emmanuel Bove, mais parce que je reconnaissais cette collection et cet éditeur et c'est ceux qui publient Arthur Cravant et René Crevel, voilà, qui sont deux de mes idoles et peut-être pour Happy Few donc j'ai su tout de suite que j'étais en train de
Ils sont spécialisés dans les auteurs qui n'ont pas beaucoup de lecteurs en fait. Mais qui ont des lecteurs fervents.
Complètement.
Parce que malgré les tentatives et les rumeurs qui vous ont assailli, le cercle des lecteurs d'Emmanuel Bove, j'ai l'impression, ne s'agrandit jamais, finalement.
Oui, c'est une sorte d'auteur maudit. C'est-à-dire que, en effet, visiblement, à sa mort, tout d'un coup, les choses se sont arrêtées. Ouais. Alors, je me demande toujours à quoi c'est dû, à des héritiers qui font mal leur travail, à des manuscrits qui n'existent pas. C'est intéressant parce que pourtant, quand on le lit, c'est très actuel. C'est très actuel. Les nouvelles, elles ont presque toutes un même thème. C'est une sorte de la dissimulation, le mensonge entre des gens qui pourtant n'ont rien à se cacher. Une mère et son fils, deux frères qui sont censés céder. La première nouvelle est très belle. En effet, c'est parce qu'elle fonctionne par cliché. Un homme secourt une jeune fille qui menace de se noyer et visiblement il
attend récompense.
C'est la belle noyée. Il l'a vu nue. C'est le concours de t-shirt mouillé. Elle lui plaît. Et tout d'un coup, il va s'apercevoir que...
Trois petits points.
Voilà. C'est des choses comme ça qui se passent.
Il y a une femme et son mari dans la nouvelle suivante, je crois.
Il y a une femme et son mari.
La visite de la police.
Voilà, et la police arrive et chacun croit que c'est parce qu'ils ont découvert le secret que chacun a.
Et cache à l'autre.
Voilà. Donc vous voyez, on est obligé de dire ça parce que sinon, en effet, on détruit la chute. Alors ce qui m'a au début un tout petit peu irrité, en effet, c'est que... La nouvelle, c'est l'art de la chute. Mmh. Et à chaque fois, c'est la chute qui d'un coup est là, comme redondante parce qu'on les lit les uns à la suite des autres. Ouais. C'est le problème. Et du coup, mais en effet, on a envie de relire le texte pour bien comprendre ce qui s'est passé. Notamment, alors le remords qui est très très beau sur une mère qui sait pas comment dire et qui est même pas coupable, on peut même pas dire qu'elle soit coupable de quelque chose. C'est assez beau. Ou la très belle nouvelle, j'ai oublié son nom, mais c'est sur les deux frères. Voilà, c'est un déséquilibré. Voilà, sur un frère riche, un frère pauvre, et l'un va essayer d'aider l'autre pour obtenir récompense. Et jusqu'à temps que l'autre, c'est compliqué. On est obligé de mettre des points de suspension. Non, voilà, il y a quelque chose.
C'est vrai que les nouvelles algéroises sont très étonnantes aussi, y compris jusqu'à la dernière Faux départ, qui est quand même assez magnifique.
Très belle.
Hein, là, l'humour est tout à fait mis de côté pour être vraiment dans quelque chose à la fois pour la grandeur de la nation et la grandeur de l'amour, qui est tout à fait bouleversante.
Oui, c'est pour ça. Il y a quelque chose qui devrait plaire aux gens finalement. C'est un livre sur le fait que les gens se mentent, se mentent régulièrement. Voilà.
Et que peut-être ce serait bien de pas se mentir.
Peut-être.
Hein ?
Ou pas.
Bon, finalement, alors on peut le conseiller, mais vous allez me faire le plaisir de lire Mes amis, n'écoutez pas Grégoire Leménager.
Il y en a d'autres aussi.
Et on reparlera d'Emmanuel Bove et puis régulièrement des éditeurs courageux, obstiné.
Et de René Crevel.
Réédite, bien sûr, Cravant, si
vous voulez. Mon corps et moi, formidable.
Le remords d'Emmanuel Bauve, la petite bibliothèque Ombre. Et avant de conclure tout à fait l'émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Grégoire Di Fiore nous a rejoint dans ce studio pour nous rappeler déjà la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse, Grégoire.
Quel quartier de Naples a servi de décor à la série Gomorra et à un clip du duo PNL? La réponse était La Scampia.
Ça, c'est une des meilleures questions depuis la rentrée. On fait gagner ce soir des places de cinéma pour le film L'usine de rien de Pedro Pigno.
Dans quel pays a lieu, au début des années 2000, la reprise de l'usine Zanon par ses employés?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Vous pouvez également réécouter cette émission et vous abonner au podcast. Demain, on l'évoquait avec Hervé Garlet tout à l'heure, c'est une émission spéciale en coordination avec Dugrain Moudre pour parler des politiques culturelles. Dugrain Moudre s'intéressera au secteur de l'audiovisuel et nous nous intéresserons au secteur du spectacle vivant. Quelle politique culturelle est prévue, va s'annoncer? Nous serons en compagnie de Fabienne Pascaud, Arnaud Meunier, Stéphane Hillel et Michel Aurier pour débattre de cette question qui n'aura rien de simple. Tout cela, ce sera en public du bar Le Bel Air à la Maison de la Radio à Paris.